popopiennes, popopiens et tous les autres aussi, bonjour. Vous l'aurez compris, hier, en nous écoutant deviser avec Gilles Lelouch, on a beau faire une émission de pop culture, le fond de l'air est frais, dans tous les sens du terme. Et l'humeur n'est pas trop à cette futilité dont nous raffolons par ailleurs. Les mauvaises nouvelles tombent à la cadence des bombes, et alors qu'aujourd'hui nous nous apprêtions à célébrer la journée internationale des droits des femmes, journée, cela dit sans la moindre démagogie, qui devrait s'étendre simplement aux 364 autres, qui composent une année, voilà que le sort des Ukrainiennes en particulier, jetées sur les routes de l'Exode avec leurs enfants, met l'accent sur cet éternel dommage collatéral, comme disent les experts, que subissent celles qui ont parfois la mauvaise idée de nous mettre au monde, et je pense ici en particulier à Madame Poutine mère, qui doit se demander, où qu'elle soit, si c'était une si malin que ça de prénommer son fils Vladimir, qui signifie, je le rappelle, celui qui gouverne en paix. La maman d'Ariane Ascaride, en revanche, peut se féliciter d'avoir choisi un prénom aussi beau, Ariane. C'est elle qui aide les taisés que nous sommes tous à sortir du labyrinthe et à échapper au terrible Minotaure. Elle ne pouvait donc pas mieux tomber qu'aujourd'hui. Et pop, 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 c'est parti.
France Inter.
Joli ça.
Pop, pop, pop. Antoine de Gaulle.
Et bonjour Ariane Ascaride.
Et bonjour Antoine de Gaulle.
Et bienvenue dans Pop, Pop, Pop.
Et merci Antoine de Gaulle.
Est-ce que votre maman vous a dit pourquoi elle vous avait choisi Ariane comme prénom ?
Mon cher Antoine, c'est pas ma maman.
Ah bon, c'est qui ?
C'est mon papa.
Ah, c'est papa qui a choisi.
Il a choisi ce prénom parce que, en fait, je crois qu'il aimait beaucoup ce prénom et surtout parce que ça faisait, comme il était très superstitieux, ça faisait des initiales doubles. Ariane Ascaride. Voilà. Donc c'est, mais c'était un peu étrange parce que quand moi je suis née, il y a très 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 longtemps, le curé a pas voulu me baptiser parce que mon prénom n'était pas sur le calendrier.
Il y a pas de Sainte Ariane.
Bah non, il y a pas de Sainte Ariane. Heureusement.
Enfin, jusqu'à
heureusement.
Vous.
Oui,
jusqu'à
c'est
vous,
ça.
J'ai envie de
c'est
dire.
Ça, absolument.
Bon, alors ça a même donné son titre à un des films de Robert Guédiguian 2014, parmi la vingtaine de films que vous avez tourné ensemble. Mm-hmm. Vous êtes une Ariane dans la vraie vie. Vous vous y retrouvez, vous, par exemple, dans ce labyrinthe actuel?
Ça commence à devenir un peu compliqué, hein. J'essaye de le. Là, je sais plus si je suis Ariane ou si je suis le petit poussé. J'essaye de laisser des petits cailloux pour arriver à récupérer mon chemin. Mais là, ça commence à plus être de la tarte, quoi. Alors, j'aimerais bien que ça s'arrête, si vous voulez.
Que ça se calme un petit peu.
Que ça se calme et que, effectivement, aujourd'hui, 8 mars, comme vous avez dit si justement, journée des droits de la femme. Je voudrais dire quand même que un des premiers droits des femmes, c'est de vivre en paix. Mmh. Voilà. Mmh. Parce que quand il y a la guerre, les femmes, déjà que c'est pas toujours rigolo, alors ça devient vraiment pas rigolo du tout. Quoi.
Déjà que c'est la guerre au quotidien, ça fait une double guerre.
C'est-à-dire, et puis surtout, cette guerre-là, elle est d'une violence inimaginable. Mmh. Mais là, en ce moment, c'est la guerre en Ukraine. Mais je pense aux femmes des guerres ailleurs, en Irak, en Afghanistan, en Somalie, en Arménie, et j'en oublie, en Afrique. C'est terrible parce que c'est des butins de guerre.
Oui.
Vous voyez?
Très bien.
Et que être un butin de guerre, c'est pas simple du tout, du tout, du tout. Et comment on fait quand effectivement, par exemple, alors oui, c'est vraiment pas très rigolo ce que je vais raconter, mais je suis obligée de le raconter.
Allez-y, Ariane.
Quand on est violé et que après votre famille, elle veut plus vous reconnaître et que vous vous retrouvez comme ça, complètement seule, et que en même temps il y a les enfants, que en ce moment les femmes ukrainiennes, elles sont obligées de dire au revoir à leur bonhomme et elles partent dans des trains bondés avec les enfants sous les bras, avec des enfants terrifiés quand même, parce qu'il faut quand même dire les choses telles qu'elles sont, en laissant peut-être leur propres parents qui sont âgés en les laissant là, c'est juste épouvantable et j'aimerais bien que ces histoires de pouvoir, et excusez-moi, ce pouvoir est bien souvent tenu par des hommes, que ça s'arrête quoi, juste il faut s'arrêter quoi.
On va aussi parler de ça dans cette émission puisque vous allez faire ce soir une lecture du texte de Mona Chollet, Sorcière, la puissance invaincue des femmes. Ça sera à la salle 1789 à Saint-Ouen. Mais dans quel état d'esprit êtes-vous là aujourd'hui précisément en ce 8 mars 2022? Vous venez de répondre en partie. Je vous sens bien chaude et énervée.
Je suis assez énervée. Ouais. Mon état d'esprit, il est un peu beaucoup énervé. Je suis alors. Je suis quelqu'un qui fait partie du mouvement de la paix depuis très très longtemps. La guerre, pour moi, c'est la chose la plus terrible du monde. Mais vraiment la chose la plus terrible du monde, après les tremblements de terre et les tsunamis. Voilà, c'est tout. Et les tremblements de terre et les tsunamis, on n'en est pas responsable. Encore que je ne sais plus si maintenant, avec le réchauffement climatique, on ne va pas en être responsable. Surtout des tsunamis. Mais la guerre, c'est des histoires de pouvoir. Et c'est quelque chose qui ne rentre pas dans ma tête. Et la guerre, on met des générations et des générations pour s'en détacher. On continue aujourd'hui à faire des films, à écrire des livres qui parlent de la Seconde Guerre mondiale. Et on bascule là, on est en train... Enfin, j'espère qu'on va basculer dans une folie totale, mais c'est, ça me... Je ne voulais pas ce monde-là. Je suis pas pour. Enfin, je veux pas ce monde-là. Je le veux pas. C'est
bon,
tout.
Vous n'êtes pas dans un état tout à fait détendu.
Non,
si
pas
je comprends
tout
bien.
À fait. Ah, non. Voilà. Mais bon, il faut rire.
On va essayer de se détendre pendant l'heure qui vient.
Parce que c'est très important de rire, c'est de la résistance le rire.
Le contexte de la guerre en Ukraine assombrit l'avenir de millions de gens et France Inter organise aujourd'hui, en partenariat avec France 2, un concert spécial de solidarité uni pour l'Ukraine. Ce sera à partir de 21h ce soir, donc il faut d'abord aller... Écoutez, Ariane, à 20h.
Salut, c'est non, mais même si vous venez et là, non, puis après, faites les deux. Même, faites-en encore plus. Je sais pas, après, allez chercher vos copains qui habitent à côté de chez vous et puis buvez des coups et réfléchissez sur qu'est-ce qu'on peut faire.
Voilà. Bon, et nous écouterons tout à l'heure un message qui nous a été envoyé par Natalia Alanevitch, qui est une membre du collectif musical de Kiev, les DAC d'auteurs, et qui nous parlera un peu de la situation des artistes en ce moment dans le contexte ukrainien. Bon, on va revenir sur tout ça avec Charline qui va nous rejoindre juste après un morceau des Pretenders intitulé 2000 Miles et cet extrait de l'album I Love You. Vous allez voir, ça va vous calmer.
He's gone 2000 miles. Snow is falling down, gets colder day by day. I miss you. The children will sing, he'll be back. Singing in
C'était 2000 Miles de Chrissy Hynde et ses Pretenders, héroïne personnelle au passage que nous écoutions avec notre invité Ariane Ascaride. Et c'est pendant cette délicieuse balade, qu'elle aurait d'ailleurs pu enregistrer en Picardie si elle était passée par là, que Charline vient de nous rejoindre.
On n'a pas beaucoup de studios en Picardie,
franchement. Charline, Ariane.
Enchantée.
Allez-y.
Ariane, vous lirez donc ce soir Sorcière de Mona Chollet à l'espace 1789 à Saint-Ouen, lors d'une soirée organisée par le collectif À définir dans un futur proche. Et c'est sur le sous-titre de l'ouvrage qu'il me semble intéressant d'insister, à savoir La puissance invaincue des femmes. Qu'est-ce qu'il vous évoque, à vous, ce sous-titre ?
Ben, c'est une réalité, juste. Mais simplement, c'est une réalité qu'on a essayé de contrer en permanence. Mmh. C'est pour ça qu'il y avait des sorcières. Les sorcières, en fait, qu'est-ce que c'était ? C'était juste des femmes, souvent, qui étaient des femmes âgées, bien souvent, qui donc étaient souvent veuves, et qui, du coup, libéraient leurs paroles. Et à partir du moment, simplement, parce qu'elles parlaient, eh ben, on les mettait sur un bûcher, et puis on les brûlait. Mmh. C'est tout simple. Mmh. Et on ne nous brûle plus, aujourd'hui. Mais c'est toujours une femme qui parle, c'est une emmerdeuse, je sais de quoi je parle.
Et cette puissance invaincue, ça veut dire qu'on n'a pas eu raison de ça.
Bah non, et puis de toute façon, on va pas se taire, quoi, vous voyez. Et je suis très contente de ce qui est en train de se passer depuis un certain nombre d'années. Vraiment, c'est. Mais la seule chose que je veux dire, c'est qu'il y a encore beaucoup, 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 beaucoup de travail. Mmh. Parce que si vous voulez. On nous a mais tellement transformés en émetteurs d'une idéologie machiste que nous la transportons et nous la diffusons parfois même sans nous en rendre compte. Donc c'est vrai qu'il faut que nous fassions un travail sur nous-mêmes et que nous puissions aussi aider les filles qui arrivent, quoi. Voilà, c'est tout.
Mona Chollet était passée par ce studio pour nous parler de cet essai au moment de sa sortie. Alors on a tous croisé des figures de sorcières dans nos lectures d'enfants et nous lui avions demandé si elle avait trouvé des points communs entre ces sorcières croisées durant l'enfance et celles qu'elle a découvertes en étudiant ce sujet.
Oui, j'ai retrouvé je pense notamment à un personnage de Béguine, de vieilles femmes sages. Enfin, on croise quand même assez souvent ce type de femme qui connaît les plantes, qui est vieille et sage, qui a une espèce de présence un peu surnaturelle. Donc oui, je l'ai recroisée à l'occasion, puisque j'ai essayé aussi de trouver, à la fois de définir ce type de femme qui reste réprouvée aujourd'hui, même si c'est heureusement d'une manière moins violente, mais aussi de trouver des modèles de femmes qui osent défier les interdictions et qui donne du courage, en fait, pour transgresser les normes de la bonne féminité. Mmh. Et moi, je me sens pas très courageuse moi-même, donc j'ai besoin d'avoir ces modèles, et c'était un plaisir de les pister, en fait, à travers les écrits, de voir celles qui me paraissaient le plus fortes.
Des femmes qui donnent du courage quand on a l'impression de ne pas en avoir assez, est-ce que c'est aussi l'effet qu'elles vous ont fait ?
Ah oui, oui, il y a vraiment des femmes qui m'ont... Enfin... que ce soit Simone Veil, Simone de Beauvoir, que ce soit Marceline Loridan, que ce soit c'est des femmes qui moi m'ont, que ce soit Anne Frank quand j'étais beaucoup plus jeune, c'est des femmes qui m'aident à marcher tout simplement. Vous voyez tout simplement Germaine Tillon par exemple. Germaine Tillon, c'est une de mes héroïnes. Vous voyez.
Grande résistante.
Et grande résistante ou Lucie Aubrac. Enfin voilà, ce sont des femmes. Qui m'aident juste à chaque fois à me dire quand je commence, parce que les doutes ça existe, hein, et puis ma vie elle est, on croit toujours que je suis très très arrêtée comme ça, puis non, pas du tout, je suis quelqu'un qui doute énormément, donc de temps en temps me référer à ces femmes-là, et puis me référer aussi à des femmes qui n'ont rien à voir, qu'on connaît pas, par exemple toutes ces filles qui ont fait cette grève pendant des mois et des mois et des mois dans cet hôtel, hein, toutes ces femmes de ménage, et elles ont gagné. Je me dis quand même, elles sont costauds, quoi, et qu'il y a un endroit où il faut que, ben, il faut tenir, quoi. Mmh. Il y a cette chose-là. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui se remet sur le métier, comme on disait, hein, comme la chanson, tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours.
Le statut de sorcière a longtemps été lié à la perception que le monde avait des femmes. Aujourd'hui, c'est presque devenu une revendication. Je suis personnellement une sorcière. Ariane, l'êtes-vous aussi ?
Ah mais moi je suis une vraie sorcière, parce que je fais des trucs magiques en plus.
J'en doute pas.
Et quel genre ?
Ouais. Oh là là, je peux pas vous raconter ça à la radio,
si,
c'est pas possible. Non, je suis une sorcière, je lance des sorts.
Ouais, vous lancez des sorts ?
Oui.
Ah oui ?
On peut vous donner des listes ?
Ben, si vous voulez, parce que je suis une gentille sorcière quand même, mais en plus, vous savez, moi je suis née au bord de la Méditerranée, superstition,
c'est pour ça que
les sorcières, la superstition, les sorcières, toutes ces choses-là, moi j'ai été élevée un petit peu dans tout ça, faut pas m'emmerder trop, quoi. Vous voyez ce que je veux dire?
On peut jeter l'œil.
Voilà.
Ok, mais regardez pas comme ça, pour commencer. Si vous êtes une femme et que vous osez regarder à l'intérieur de vous-même, alors vous êtes une sorcière. Cette citation du collectif new-yorkais Witch, qui est en exergue du livre de Mona Chollet, renvoie entre autres à une question que nous, les hommes, ne nous posons pas, celle de la maternité ou du refus de la maternité. En quoi cette question-là touche-t-elle la mère que vous êtes par ailleurs, si j'en crois mes sources? Maman comblée.
Oui, moi j'ai deux filles absolument formidables, mais je pense qu'aujourd'hui, j'ai une fille qui est maman depuis pas si longtemps que ça, et qui est une maman absolument géniale. Il faut quand même que je le dise, t'es géniale. Et, parce que je sais qu'elle écoute. Et en même temps, aujourd'hui, dans le monde dans lequel on est, c'est une sacrée responsabilité de faire des enfants, mais je crois que c'est aussi une manière de se battre, parce qu'on ne peut pas tout le temps être que dans les forces obscures, vous voyez, et qu'il faut effectivement raconter que l'humanité, ça peut être quelque chose de très lumineux, mais que nous avons une responsabilité, nous, ceux qui y sommes avant, à raconter des choses. Vous savez, hier après-midi, j'étais dans une classe, dans une école élémentaire de Paris, dans le 10e arrondissement. Je fais une rencontre avec des petits-enfants qui avaient 9 ans. Ils étaient vraiment extraordinaire. Et ces petits-enfants, ils se sont tapés le Covid, c'est-à-dire les cours, vous voyez, avec l'ordinateur, à distance et tout ça. Et j'ai rencontré deux classes comme ça. Ils m'ont épaté, quoi. Ils sont d'une dignité et d'une soif d'apprendre, de découvrir. Et on a une responsabilité vis-à-vis d'eux. On a vraiment une responsabilité. Et il faut aussi donner aux femmes la possibilité d'aider leurs enfants, de leur donner tout ce qu'elles peuvent leur donner, et en les allégeant un peu de temps en temps, parce que vous savez, on est un peu, comment elle s'appelle là, cette déesse indienne, on a quand même
Shiva,
voilà, on a quand même beaucoup de bras,
Shiva,
quand même.
Shiva pas, hein.
Il y a des filles aujourd'hui qui Shiva pas, parce que c'est pas si simple, quoi, vous voyez.
Dans l'essai de Mona Chollet, trois types de sorcières, trois représentations de la femme indépendante, la femme sans enfant, la femme âgée, un point commun, ce sont des femmes qui vivent pour elles-mêmes, c'est-à-dire qu'elles ne se définissent pas par rapport aux autres, que ce soit par rapport à un homme, par rapport à un enfant. Tout est affaire de regard social.
Bien sûr, absolument. Tout est affaire de regard social. Moi, je pense qu'on n'est absolument pas obligé de faire un enfant pour être une femme, vous voyez? Oui, mais vous me dites oui, vous.
Oui,
mais
bien sûr.
Je peux vous assurer que c'est pas du tout
évident. Non, mais on le voit bien.
Vous le voyez, c'est pas du tout évident pour une jeune femme de dire j'ai pas envie d'avoir d'enfant. Mais c'est un droit absolu, quoi.
Non, mais c'est surtout que c'est quand une jeune femme ou une femme annonce qu'elle n'a pas envie d'avoir d'enfant, la question immédiate derrière est pourquoi.
C'est
une question qu'on ne pose pas aux femmes qui disent je vais avoir un enfant.
Ah ben non.
Donc
ben non,
parce une injustice.
Mais parce que si vous voulez, dans l'inconscient collectif, une femme elle est faite pour faire des enfants. Voilà. Une femme, c'est un truc reproducteur.
Matrice.
Voilà. Et de fait, c'est vrai quand même. Hein. On a la possibilité de faire des enfants. C'est ça notre puissance, quand même. Et que ça les embête beaucoup, 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 les autres, là, ceux qu'on appelle des garçons.
Mais arrêtez de me montrer du doigt.
Mais non, qu'est-ce que vous voulez? Non, mais c'est ça qui, depuis des siècles, coince, quoi. C'est ce pouvoir-là.
Et alors, sont considérées comme des sorcières celles qu'on estime être une menace pour l'ordre social. Cet ordre social a bougé, continue d'évoluer, même si c'est parfois trop lentement. Et pourtant, le fait de considérer les femmes comme une menace reste un invariant. Comment est-ce qu'on explique ça?
Parce que je pense que, si vous voulez, la lecture du monde que peuvent avoir les femmes est une lecture extrêmement différente de la lecture des hommes. Et que comme les choses ont été mises en place depuis des siècles par les hommes, c'est très perturbant pour eux si une femme arrive au pouvoir et arrive à faire des choses. Je pense à la première ministre de Nouvelle-Zélande, par exemple, la manière dont elle a géré la crise du Covid ou les choses comme ça. Rien ne s'est passé de la même manière. Donc, si vous voulez, c'est d'un coup extrêmement perturbant pour des tas de messieurs qui sont persuadés qu'ils ont la bonne lecture du monde.
Oui.
C'est tout. Voilà.
Ariane Ascaride, nous allons continuer à parler de ce sorcière de Monacholet que vous allez lire ce soir au 789, cette salle de Saint-Ouen, hein, dans quelques heures. On va continuer à en parler dans un instant, mais et aussi du droit des femmes et de ce qu'il signifie aujourd'hui, mais aussi de la situation en Ukraine avec un témoignage d'une artiste sur place. Mais avant cela, on fait une petite pause musicale avec un morceau qui fera plaisir à Charline. C'est PJ Harvey,
merci.
Good Fortune. Fortune de PJ Harvey en compagnie d'Ariane Ascaride, qui est notre invitée aujourd'hui pour parler de cette lecture de sorcière de Monacholet qu'elle fait tout à l'heure au 1789, une salle de Saint-Ouen. Alors, on parle beaucoup de sorcières, on parle de cette journée internationale des droits des femmes, et on a tendance à aller très vite aujourd'hui, Ariane, et à faire comme si l'existence du mouvement MeToo avait remis les pendules à leur place, comme disait Johnny. Mais pensez-vous que les choses aient vraiment changé aussi vite et en profondeur?
Alors, je pense que les choses sont en train de changer, mais je crois qu'il faut bien se mettre dans la tête que ça va prendre beaucoup plus de temps que ce qu'on raconte, et que surtout, que vous le vouliez ou non, il y a des cultures de classe sociale.
Oui.
Parce que c'est un mot qu'on n'emploie plus, mais vous n'avez pas la même appréhension du monde si vous habitez dans le 5e, le 6e, le 7e, enfin bon, certains arrondissements de Paris, ou dans le centre de certaines grandes villes de France, ou si vous êtes dans une cité et que voilà, vous êtes issu de l'immigration, ou même sans être issu de l'immigration. Les rapports n'ont pas le même.
Bien sûr.
Et je pense que pour les filles qui sont dans les cités, le boulot, il est énorme pour elles, parce qu'elles doivent se battre contre des tas et des tas et des tas de choses. Vous comprenez, quand un homme lui-même est lui-même au chômage, vous comprenez bien que c'est encore plus difficile dans son rapport avec les femmes. Voilà, c'est tout.
À propos du mouvement MeToo, de ses répercussions parmi les plus étranges, pour ne pas dire douteuses, voici ce que Mona Chollet nous disait lors de son passage dans l'émission.
J'ai trouvé particulièrement ironique qu'on parle de chasse aux sorcières avec l'affaire Weinstein, parce que c'est vrai, quand on, à l'époque, il y a beaucoup aussi de, enfin, à peu près n'importe quelle femme pouvait être accusée de sorcellerie, mais j'ai rencontré au moins deux cas dans mes lectures où c'est des femmes qui avaient dénoncé des agressions sexuelles et qui ont été accusées de sorcellerie par leurs agresseurs pour voilà, qui voulaient se défendre en fait, et qui ont fini sur le bûcher. Donc on voit bien l'indécence qu'il peut y avoir aujourd'hui à parler de chasse aux sorcières en parlant des agresseurs sexuels, en fait.
Alors, ce n'est pas à vous, Ariane Ascaride, qu'on va apprendre que les mots ont un sens et que mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde. Mais ce dévoiement du terme chasse aux sorcières, est-ce qu'il vous a aussi fait frissonner, pour ne pas dire horrifier ?
Bah, oui, parce que, si vous voulez, c'est simplement parce qu'à un moment donné, un discours se met à changer. Que d'un coup, comment je pourrais expliquer ça ? À partir d'un moment, du moment où il y a des gens ou des filles prennent la responsabilité et veulent, ont besoin de changer un discours, ça provoque pour ceux d'en face une espèce de panique absolument totale, et on va aller rechercher dans une manière de parler qui est presque archaïque.
Oui.
Vous voyez, parce que l'archaïsme, c'est quelque chose qui est très vite de retour dès qu'on se retrouve dans une proposition de changement de lecture du monde. On se réfugie dans l'archaïsme parce que comme ça, au moins, on est tranquille. Vous voyez. Donc finalement, c'est monstrueux.
Alors, je ne sais pas si ça fait partie des textes que vous avez à lire, mais dans le livre de Mona Chollet, il y a le relais d'une tribune de Tracy McMillan, qui est autrice et scénariste, notamment sur Mad Men. Une tribune qui avait été publiée dans le Huffington Post et qui était intitulée « Pourquoi n'êtes-vous pas mariée ?» Une tribune qui débouchait sur ce constat. « Attention à la colère des femmes, elle fait peur aux hommes. » Et je cite « La plupart veulent juste épouser une femme qui est gentille avec eux. Avez-vous déjà vu Kim Kardashian en colère ? Je ne crois pas. » En résumé, un homme en colère, c'est remarquable. Une femme en colère, c'est une chieuse. Être une sorcière, est-ce que c'est aussi se réapproprier le droit à la colère ?
Mais je pense que c'est indispensable d'être en colère, vous voyez ? Et moi, je suis quelqu'un qui suis en colère. Enfin, je connais très bien la réputation que j'ai. Je sais très bien qu'il y a des gens qui peuvent dire « Oh là là, oh là là, là, oh, elle va nous gonfler toute la soirée. »
Et en plus, elle va nous jeter un sort.
Et elle va nous jeter un sort, vous voyez. Donc, si vous voulez, cette chose-là, elle est encore très... Ok, comment vous dire ? Par exemple, moi qui viens d'un milieu populaire, quand je suis arrivée dans le milieu du cinéma, du théâtre, des choses comme ça, on me disait que je parlais trop fort. Vous comprenez ?
Bien sûr.
Il faut savoir. Mais voilà. Mais il faut, vous voyez, il faut avoir une certaine manière de s'exprimer. Et même si on dit des, excusez-moi encore, mais les auditrices et les auditeurs, des saloperies absolument épouvantables, il faut les dire avec un ton de voix élégant.
Et sourire.
Et sourire. Mmh. Mais l'élégance, c'est quoi ? Vous voyez ? Quelle élégance ? Oui. L'élégance de qui ? Donc, voilà.
Ariane Ascaride, vous allez donc lire ce soir de larges extraits de Sorcières, La puissance invaincue des femmes, de Mona Chollet, je le répète, à cette salle 789, hein, à Saint-Ouen.
Merci Antoine.
Est-ce que vous auriez la gentillesse de nous en lire un extrait ici ? Bah oui, qu'on en profite.
En 1972, l'intellectuelle américaine Susan Sontag avait consacré un brillant article au « Deux poids, deux mesures » du vieillissement chez les hommes et les femmes. Elle y évoque une de ses amies qui, le jour de ses 21 ans, se lamentait « La meilleure partie de ma vie est terminée, je cessais d'être jeune ». À 30 ans, elle décréta que cette fois, c'était vraiment la fin. Et 10 ans plus tard, elle raconta à Suzanne, qui n'y avait pas assisté, que son 40e anniversaire avait été le pire de sa vie, mais qu'elle était bien décidée à profiter du peu d'années qui lui restaient. Et je me revois, moi, même le soir de la fête que j'avais organisée pour mes 20 ans, incapable de parler à mes invités d'autre chose que de mon angoisse à l'idée d'être désormais vieille. La boute en train, total. Ils n'avaient pas dû regretter le déplacement, les pauvres. Je ne comprends plus l'état d'esprit qui était le mien ce soir-là, mais je m'en souviens très nettement. Ces dernières années, deux grandes figures qui y étaient confrontées, Thérèse Clercq, la fondatrice de la maison des Baba Yaga, une maison de retraite autogérée par les femmes à Montreuil, et l'écrivaine Benoîte Groul, toutes deux mortes en 2016, ont fait émerger la question de l'âge dans le féminisme français. Mais il faut parler aussi de ce sentiment d'obsolescence programmée, de cette hantise de la péremption qui marque toute l'existence des femmes et qui leur est propre. On imagine mal un homme se rouler par terre le soir de ses 20 ans en gémissant qu'il est vieux. Depuis que j'ai 22 ans, les journalistes me demandent « Avez-vous peur de vieillir ?» témoigne l'actrice Penelope Cruz. Barbara MacDonald remarquait en 1986 le message que reçoivent les jeunes femmes, c'est qu'il est merveilleux d'être jeune et affreux d'être vieille. Mais comment pouvez-vous prendre un bon départ dans la vie si on vous dit en même temps à quel point la fin est terrible ? Et pour une bonne part, la hantise de la péremption chez les femmes concerne leur capacité à enfanter. Bien sûr.
Merci Ariane Ascaride. Extrait donc de Sorcière, le livre de Mona Chollet, dont vous lirez ce soir de larges extraits à la salle 789 à Saint-Ouen. Merci, ça un petit avant-goût qui me donnait envie d'en avoir beaucoup plus.
Mais je ne suis pas toute seule, hein.
Là vous êtes toute seule face à moi. Face à nous. Bon, on fait un petit break dans cette émission, c'est l'heure des pop news et juste après on va écouter un témoignage d'une artiste ukrainienne.
Immersion à la Maison Blanche avec un focus bien particulier puisque la série dont il est question s'appelle The First Lady et suit donc les destins de Michelle Obama, Betty Ford et Eleanor Roosevelt incarnés par Viola Davis, Michelle Pfeiffer et Gillian Anderson.
I can't have you backseat driving.
They want to turn me into a black Martha Stewart? I will pick my team, choose my causes, understood?
You knew what you were getting into.
You kept your political dreams a secret from me.
I'll be here for you. But I am going to be myself.
My hands are tied.
Don't push me off. I am your wife, not one of your girlfriends.
The First Lady, ça démarre le 17 avril aux États-Unis sur Showtime. On attend et on espère rapidement un diffuseur français.
Dans Cœur vaillant, le nouveau film de Mona Achache, Camille Cottin offre refuge à des enfants là où personne ne pense à aller les rechercher.
Elle est où ?
Au château de Chambord.
Les tableaux à la rigueur, passons. Et des enfants, Rose. Vous êtes inconsciente ?
Vous êtes au courant de ce qui s'est passé au vélodrome d'hiver ? Ici, personne ne viendra les chercher.
Et vous venez pas avec nous ?
Je viendrai vous voir dans votre nouvelle cachette.
Des enfants en danger dans le château et le parc du domaine de Chambord, au milieu des œuvres d'art cachées du Louvre, Cœur vaillant, avec également Swan Arlo, ce sera le 11 mai au cinéma.
Un nouveau titre signé Florence and the Machine, une chanson écrite durant le confinement dont elle dit « Je voulais faire quelque chose de monstrueux » et cette clameur de joie, de fureur et de chagrin fut la première chose qui est sortie et ça donne « Heaven is here ». Dans la vidéo qui accompagne le titre, une chorégraphie au sujet de laquelle Florence Welch ajoute « Deux des danseuses de cette vidéo sont actuellement dans un abri, mes braves et belles sœurs Marine et Nastia ». Déclaration assortie d'un lien vers une association humanitaire. On relaie le tout sur le compte Twitter 3615 popopop.
France Inter. Popopop. Antoine de Caunes.
C'était la machine de Florence.
Ah oui,
de machine,
bien sûr, enfin, tout à fait.
Il y a juste de l'entendre.
Évidemment. Charlie,
vous êtes distraite aujourd'hui.
Je saute.
Bien, alors je propose maintenant de nous tourner un moment vers l'Ukraine et ses artistes, car si nous ne faisons pas de géopolitique dans Pop Pop Pop, notre solidarité va évidemment à tous les artistes victimes de cette invasion barbare. Nous avons pu envoyer quelques questions à Natalia Alaneyevitch, qui fait partie du collectif musical et théâtral les DAC d'Auteurs, et qui se trouve toujours en territoire ukrainien. Elles sont célèbres notamment pour avoir joué pendant les manifestations de Romaïdan lors de la révolution ukrainienne de 2013. Voilà ce que nous a confié Natalia.
Hello, friends.
I'm Natalka Halanevich from Dag Daughters Band from Ukraine.
Hello les amis, je suis Natalia Halanevich du groupe ukrainien Dag Daughters. À cet instant, notre pays souffre d'une terrible douleur à cause de cette attaque de la part de la Russie. C'est un crime contre les gens et contre l'humanité. C'est un crime contre toute la civilisation de notre planète. Et bien sûr, nous sommes dans un état d'effroyable choc psychologique. Et il y a d'ores et déjà tellement de victimes civiles qu'il est impossible de l'accepter. La veille du 24 février, nous nous sommes retrouvés avec le groupe pour des répétitions dans un théâtre à Kiev et pour discuter de la création de notre nouvelle pièce intitulée « Danse macabre ». C'est une pièce sur la conscience et la perception de la mort. Nous avions de nouveaux morceaux et pensé à nos paroles et tout cela paraît affreusement symbolique maintenant. Maintenant, nous, les filles du groupe et nos enfants sommes à l'abri, grâce à l'aide de nos amis et de gens bien. Mais nous espérons nous réunir bientôt et créer et produire de l'art à nouveau, même en ce moment, parce que nous devons maintenir notre conscience éveillée, notre esprit de combat, et donner de la force à ceux qui nous défendent. L'Ukraine est devenue un exemple très fort de la lutte pour la liberté dans le monde. Et nous croyons dans la victoire. Merci aux auditeurs de nous soutenir dans un tel moment. C'est notre combat collectif pour la lumière et contre les ténèbres. Merci. Merci de tout cœur.
Alors c'est nous qui remercions Natalia de ces quelques mots, évidemment. Voici l'occasion de passer un extrait de la chanson la plus célèbre en Ukraine de ce groupe Dag Daughters. Ça s'appelle Rodzi Donbass. Et Rodzi Donbass des Dag Daughters, ce collectif musical et théâtral de Kiev, dont l'une des membres nous a apporté son témoignage à l'instant. Je vous sentais très, très concentré, très à l'écoute, Ariane, en écoutant la détermination de cette jeune femme.
Ben oui, parce que d'abord, très respectueuse de cette jeune femme qui dit effectivement qu'il faut continuer à faire de l'art. Mmh. Et je pense que c'est vraiment indispensable, parce que si on tue la musique, le théâtre, le cinéma, si on tue toute forme d'art, on tue l'humanité. Voilà.
Je précise que les Dag Daughters sont en train de rejoindre la France pour la plupart et qu'elles y prévoient des concerts, notamment le 25 mars à Bar-le-Duc, scène nationale, le 31 mars à L'Éclat, à Pont-Audemer, le 1er avril à Dieppe, scène nationale, et le 2 avril à Vire, au CDN, le Préau. Voilà, l'information est passée. Ariane Ascaride, je rappelle que vous lisez ce soir à 20h au 1789 à Saint-Ouen, Sorcière, la puissance invaincue des femmes, de Mona Cholet, dans un spectacle mis en scène par le collectif à définir dans un futur proche, c'est l'intitulé. Vous restez avec nous car dans la suite de Pop Pop Pop, on va aussi parler du livre Pain perdu, du film Compartiment numéro 6, du jeu des 1000 euros et de George Harrison. Mais avant ça, on écoute ensemble Les chants de Maldoror de Léonie Pernet.
Regarde nos bébés explorent.
Léonie Pernet, les enfants de Maldoror. Vous écoutez Pop Pop Pop, l'émission de pop culture de France Inter, ou plutôt l'émission qui traite la culture de façon... Ça, mais c'est le jeu des 1000 euros de France Inter. Enfin, c'est la forme contemporaine de la plus ancienne émission de radio encore diffusée en France, puisqu'elle date de 1958. Et ça, c'est le son pop par excellence pour vous, Ariane Ascaride.
Bah oui, parce que moi, j'ai été élevée au jeu des 1000 francs.
Des 1000 francs. À demain, si vous voulez bien.
Henri Cuptic. Lucien Jeunesse. Ouais. Louis Boson.
Oui, tout à fait.
Et maintenant, mince, le dernier, comment il s'appelle ?
L'actuel ?
Oui.
Nicolas Stoufflet.
Voilà. Oui. Et j'écoute toujours le jeu des 1000 euros.
Ah, vous êtes une fidèle parmi les fidèles, si je
comprends. Je ne sais pas comment expliquer. Ça, oui, ça a quelque chose de... Je pense que ça fait partie du patrimoine français pour moi, le jeu des 1000 euros, vous voyez. Je connais plein de gens comme moi qui écoutent le jeu des 1000 euros. Hein. Plein.
Et donc, c'est l'idée que vous faites de la pop culture. Enfin, c'est une porte d'entrée
La pop culture, c'est entre autres ça, mais ça fait partie. Moi, j'adore les questions. Les questions bleues, les questions rouges, les questions bleues, ça me plaît. Ouais, puis je suis là, je cherche et tout ça. Et quand j'étais môme, il fallait absolument plus parler, il fallait plus bouger. Mon père écoutait ça religieusement.
Bon, mais en tous les cas, merci d'avoir répondu gratuitement à nos questions. C'est l'heure de votre pop list. Nous vous avons demandé de choisir un livre, un film, une musique, une série que vous appréciez en ce moment. Votre livre du moment, c'est Le Pain perdu d'Edith Bruck. L'occasion de découvrir une femme absolument incroyable, écrivaine, poétesse, à la destinée aussi effrayante que fascinante. Charline, de quoi parle ce Pain perdu ?
L'autrice y raconte sa miraculeuse survie dans plusieurs camps de concentration et son difficile retour à la vie en Hongrie, en Tchécoslovaquie, puis en Israël.
C'est un livre qui vient d'être republié ici en France.
Et puis en Italie aussi, parce qu'elle était... Elle était femme de Elio Rossi, qui était le frère de...
De l'autre Rossi.
De l'autre Rossi, Franco.
Francesco
Rossi. Francesco. Et elle s'est mise à écrire en italien, alors qu'elle était hongroise. C'est ça qui est absolument incroyable. Et c'est un livre qui raconte effectivement le parcours, enfin la vie de cette petite fille juive dans un petit bled de Hongrie et qui va se retrouver en camp, qui va... avec sa sœur, qui va perdre sa mère, qui va perdre enfin toute une partie de sa famille, et puis qui après va devenir danseuse, et puis petit à petit, qui a un parcours complètement fou, et puis ce rapport à la Palestine, à l'Israël,
au pays. Oui, c'est ça, qui va passer par Israël, et qui finalement va trouver sa terre promise en Italie.
En Italie. En Italie, je conseille ce livre parce que moi, sincèrement, je ne le connaissais pas, et c'est un ami qui m'en a parlé, c'est vraiment, voilà, vous voyez, aujourd'hui, on parle de guerre et ça, c'est un témoignage de quelqu'un qui vous raconte ce que la guerre fait sur vous, quoi, tout simplement.
Pain perdu d'Edith Bruck, qui vient donc de ressortir ou de sortir aux éditions du Sous-sol. Votre film du moment, Ariane, c'est Compartiment numéro 6 de Juho Kuosmanen, qui était en compétition à Cannes l'année dernière. Charline, que se passe-t-il dans ce fameux compartiment numéro 6 ?
Une jeune Finlandaise prend le train à Moscou pour se rendre sur un site en mer Arctique. Elle est contrainte de partager le fameux compartiment avec un inconnu. Tout les oppose et pourtant...
Et comme c'est un film germano-estono-russo-finlandais, ça ressemble à ça.
В поезде?
Нет.
Ну как будет по-фински?
Я тебя люблю. Хайста витту.
Хайста витту.
Film ferroviaire, donc, peut-on dire.
Très ferroviaire, parce que ça se passe dans un train.
Ce qui est un genre en soi, les films de train.
Bah oui,
il y a beaucoup de films de train.
Et c'est un film absolument magnifique, mais magnifique, avec deux personnages centraux qui, fur et à mesure, vont évoluer. Effectivement, rien n'est fait pour qu'ils se rencontrent. En fait, ils n'ont rien de commun. Lui, il est, mais au début du film, t'as juste envie de lui mettre un coup de pelle sur la tronche, parce que vraiment, il n'est pas possible. Et petit à petit, comme ça, il va y avoir cette rencontre, et même tous les personnages secondaires sont magnifiques. Les acteurs de ce film sont prodigieux, c'est filmé sublimement, mais sublimement. Et c'est un film qui est d'une humanité incroyable. Mais vraiment, je le conseille à tout le monde. C'est un très grand film.
Compartiment numéro 6 de Juho Kuusmanen. Alors, on vous a demandé aussi quelle était votre série du moment et vous nous avez répondu niette.
Non, j'ai pas dit niette, je dis rien. C'est pas pareil. Non, j'ai beaucoup de mal avec, j'ai beaucoup de mal avec les séries. Oui, je crois que j'ai été formée à aller au cinéma et voir des films.
Ouais.
Et je dis pas qu'il y a pas de bonnes séries, hein, c'est pas le problème, hein, c'est pas ça, c'est moi, ma manière de
voir
les séries, c'est
ouais.
Oh là là, il faut attendre, ça recommence, ça continue.
Ouais, c'est le feuilleton à l'ancienne, quoi.
Oui, mais les feuilletons, non, c'est pas tout à fait la même chose que les feuilletons, je trouve. Non, c'est pas pareil. Et j'ai peur de temps en temps que ça soit un petit peu formaté, vous voyez, enfin, voilà. Et puis j'apprends que quand on fait des séries, c'est pas toujours. Ça me gêne, moi, que ce soit pas toujours le même réalisateur. Ou la même réalisatrice, parce que un réalisateur, une réalisatrice, il a un point de vue, il a une manière de raconter ce qui est l'histoire. Donc là, quand ça change d'un coup, je me dis mais qui est Buberg?
Bon, après,
mais je suis sûre qu'il y a
Charline
des bonnes
séries.
Charline
vous conseillera 2-3 séries qui vous réconcilieront.
C'est pas une obligation, mais avec grand plaisir.
Juste après l'antenne. Bien, votre choix musique Ariane est On ne peut plus pop, mais aussi un petit moment de soulagement dans un monde de brut, puisqu'il s'agit de Here Comes the Sun des Beatles, une chanson qui figure sur Abbey Road, chef-d'œuvre beatlesien, s'il en est. Pourquoi cette chanson-là en particulier?
Parce
des Beatles
que, en fait, j'ai comme habitude depuis des années et des années au mois de mars d'écouter Here Comes the Sun. Parce que pour moi, c'est le début du printemps.
Le début du printemps, le 21 mars.
Ah, c'est vraiment, c'est une chanson qui me fait un bien, mais incroyable. Il y a quelque chose qui se passe, quoi. Quand j'entends cette chanson, d'un coup, il y a du soleil. Je suis une immense fan des Beatles. Je vis avec les Beatles.
Nous sommes deux dans ce sens.
Là, vraiment.
Deux et demi.
Pourquoi je ne serais qu'une moitié de personne?
Parce que vous pourriez être à moitié fan.
J'adore les Beatles.
Alors, nous sommes trois.
Et c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire ce qu'ils ont fait. Et cette chanson me met en joie, voilà, tout simplement.
Eh bien, un peu de joie et un peu de soleil pour terminer ce pop-up-up. Here Comes the Sun des Beatles, le choix de Ariane Ascaride. We'll be right back. que Ariane Ascaride, qui était arrivée dans ce studio accablée par le poids de l'actualité.
Ça va mieux, vive les Beatles.
Voilà, je vous la rends toute souriante, toute détendue, grâce aux Beatles, grâce leur en soi rendu éternellement à ces chers Beatles. Merci Ariane Ascaride.
Merci à vous Antoine, merci à vous Charline.
Alors je rappelle que vous lisez ce soir au 1789 à Saint-Ouen, le livre de Mona Chollet, Sorcière, la puissance invaincue des femmes, en compagnie de Clara Hissé, de Jennifer Decker, Constance Dolé, Grace Séry et Anne Pacquiao, ou Pacquiao, parce que je ne sais pas comment on le prononce, et qu'il faut donc y courir.
Et lire tout Mona Chollet.
Oui. Absolument, lire tout Mona Chollet. Je rappelle aussi que France Inter organise ce soir en partenariat avec France 2 le concert Unis pour l'Ukraine à la Maison de la Radio avec Clara Luciani, Carla Bruni, Angélique Kidjo et bien d'autres, et ce sera à partir de 21h. Paroles et musique, beau programme pour votre soirée, amis popopiens. Merci Charline.
Merci à vous.
Merci Ariane.
Merci à vous deux.
À demain, en tous les cas pour Charline, et merci à toute l'équipe de Popopop et à Philippe Duclos qui était à la technique aujourd'hui. Demain dans l'émission, Nicolas Mathieu vient nous parler de son nouveau roman Connemara. Mais avant demain, rendez-vous partout sur les internets. Oh, on nous fait un gros signe du pouce, Ariane. Il a beaucoup aimé Connemara, comme nous. Rendez-vous partout sur les internets, 3615 Popopop.